Et je vous salue, je vous remercie d'être venu à notre, donc notre septième café littéraire. Nous avons commencé en 2012. Cette manifestation est placée sous l'égide de l'ADIL, de l'Association pour la défense et l'illustration des littératures lorraines, représentée ici par son président, Bernard Collin. Donc la cour de l'imaginaire, pour certains d'entre vous, vous la connaissez, c'est trois personnes, c'est Josette, là-bas, moi-même et Nadia Harley. Alors Nadia Harley fait toujours partie de la cour de l'imaginaire, mais elle a déménagé vers le sud, donc elle n'est pas là ce soir. Mais elle continue bien entendu à travailler avec nous. Cette année, nous avons sélectionné l'ouvrage de Claire Garand, Les Maîtres de la Lumière, que vous allez pouvoir découvrir également avec les autres ouvrages de la cour de l'imaginaire qui sont tous là et qui vous attendront. Et dans l'assistance, je remarque une personne, mais c'est bien elle. Ce n'est pas son hologramme, ce n'est pas un Bourdalac non plus. Gabrielle Dubaski, qui était là l'an dernier.
Alors, je ne sais pas si vous allez m'entendre, parce que moi j'ai une voix qui ne porte pas du tout. Et le micro fait écho peut-être. Je suis absolument enchantée d'être ici cette année. L'année passée, le café littéraire, j'en garde un excellent souvenir, très très émouvant. J'avais été très bien accueillie par le jury de la Cour de l'Imaginaire et par Emmanuel, et par Hélène Cruciani, qui a obtenu le prix en 2016, et qui s'excuse, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et donc un cercle s'est formé entre toutes ces personnes, et je suis absolument enchantée d'être là aujourd'hui et de découvrir le prix 2019.
Et donc, à l'issue de ce café littéraire, vous reviendrez avec plein de connaissances, vous apprendrez à vous méfier des Bourdalacs, mais vous, en contrepartie, vous connaîtrez tout sur l'intrication quantique. Donc, j'en dis pas plus, parce que Claire Garand et les deux intervenants vont s'en charger. Donc, les intervenants, nous avons toujours, chaque année, Pierre Stolz, qui est préposé à la question, comme on disait jusqu'au 18e siècle. Et d'autre part, donc, celui sans qui le manuscrit serait resté manuscrit. Et je parle de l'éditeur, de notre éditeur, qui est en partenariat avec nous depuis déjà 3 ans, Emmanuel Millet, qui va dire quelques mots de sa maison d'édition de Roïse. Je lui passe la parole.
Moi, j'ai parlé sans micro parce que ça sera un peu plus facile de faire ma grosse voix. Vous verrez bien s'en sortir après. Donc voilà, moi, je suis éditeur depuis, j'ai vu la dernière des années. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis éditeur à Yutz, en Moselle, depuis 2013. Les premiers bouquins sont sortis en 2013 avec une volonté de perdurer au niveau de l'édition à partir de 2014. J'ai une prédisposition particulière pour tout ce qui est monde imaginaire, donc tout ce qui est science-fiction, fantasy, fantastique. C'est pratiquement 70 à 80% de ce que je sors comme bouquin. À ce jour, c'est pratiquement 170 titres qui sont sortis depuis 2014. Et petit à petit, on sort aussi des bouquins en numérique. J'étais un gros lecteur, je suis devenu éditeur. Je ne sais pas si c'était une bonne idée, mais ça permet de faire des... En tout cas, maintenant, je n'ai toujours pas garé dans la maison. Donc, mais au niveau intellectuel, c'est quelque chose qui est très important. Ça ouvre beaucoup de gens, des styles différents, c'est très enrichissant. Que dire d'autre? Donc, depuis, comme le disait Raymond, ça fait 3 ans maintenant que je suis partenaire en fait, du prix de la Cour de l'Imaginaire, et je ne peux qu'en féliciter parce que depuis 3 ans, ce sont 3 vraiment très bons livres, dans des univers qui sont totalement différents. On a même réédité le prix 2016 parce que ça marchait bien. Donc, c'est une aventure qui est là depuis 3 ans, qui va, à mon avis, durer encore beaucoup d'années. Et comme partenaire, je vais souligner quand même le travail du triptyque, hein, Josette, Nadia et Raymond, qui font en fait 15% du travail. Sortir le bouquin, c'est pas le plus difficile, mais lire tous les manuscrits qu'ils peuvent recevoir, les bons comme les moins bons, faire une sélection, travailler sur les manuscrits, c'est vraiment un très très gros travail, et c'est aussi une partie de mon travail qui prend ma place, et je peux te remercier une nouvelle fois pour ça. Voilà, donc comme tous les ans, on peut dire longue vie au maître de la lumière, au prix 2019, en attendant l'année prochaine. Enfin, scalpel va disséquer les mètres de la lumière et soumettre Claire à la question.
Donc, Claire Garand, vous venez directement de Nevers. Voilà, mais vous n'avez pas habité qu'à Nevers. J'ai vu que vous avez habité dans un tas de pays.
Un tas, trois. Oui, j'ai habité en Belgique, au Portugal et en Hongrie. C'est pas très loin non plus. Voilà. Je suis restée en Europe.
Est-ce que vous parlez le portugais et le magyar? Oui, c'est vrai. Voilà. Alors on pourrait faire une interview en magyar. Mais je connais pas le magyar, là. C'est pas très bon. Oui, autrement, j'ai vu que vous avez eu beaucoup de métiers. Professeur de lettres classiques, comme moi, et conservatrice de bibliothèque.
Oui, en effet, ce que j'aime bien, bon, évidemment, on notera la prédominance du livre dans ces deux métiers. Effectivement, oui, le livre, c'est quelque chose qui me passionne. L'écriture, la lecture, la promotion du livre, la promotion de la langue française, de la culture française, c'est pour ça que je suis partie à l'étranger. Et forcément, au bout d'un moment, on finit par écrire soi-même aussi. Et voilà, donc oui, je suis environnée de livres chez moi. Ça pousse sur les murs, c'est terrible. Je les lis et puis j'en écris au moins autant que j'en lis. C'est un peu dur parfois. Voilà. Mais donc oui, le livre fait partie intégrante de ma vie.
Et puis vous avez aussi un métier assez curieux. Vous êtes biographe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste rapidement?
Ah oui, en quelques mots. Bah, écoutez, c'est très simple. Je suis biographe pour particulier, ça veut dire que j'écris les récits de vie des gens. Voilà, je pense que c'est assez court, mais je dirais quelques mots supplémentaires. En fait, j'écris soit la vie entière des gens, soit le témoignage des gens. Je vais donner quelques exemples. Ça peut être aussi bien, là j'ai par exemple écrit le témoignage d'une jeune femme qui avait eu un très grave accident de voiture à 23 ans. Et qui avait mis 3 ans pour se reconstruire et qui voulait montrer qu'il était possible, malgré la perte de son bras et de son meilleur ami, eh bien de mener une vie normale à l'âge de 27 ans. Elle s'est mariée, elle attend un enfant. Et donc voilà, c'était un témoignage. J'ai aussi écrit la vie d'une vieille dame de 91 ans, absolument adorable, parce que sa famille voulait lui offrir le récit de sa vie et s'offrir à eux-mêmes, à tous les membres de la famille, le récit de la vie de la matriarche, si je puis dire. Voilà, donc voilà ce que ça peut être que d'écrire les récits de vie des gens. Voilà mon métier.
Et vous avez aussi écrit des nouvelles et au moins un récit policier. Voilà, mais ça à compte d'auteur ou...
Non, j'ai pas écrit à compte... Enfin, j'ai pas publié à compte d'auteur. Non, c'est vrai, je n'ai pas publié à compte d'auteur. À chaque fois, les nouvelles, j'ai répondu à des appels à texte, c'était il y a déjà quelques années, enfin les dernières un peu plus récemment. Et puis sinon, j'ai effectivement publié un recueil de nouvelles chez un éditeur qui malheureusement a coulé. Depuis. Donc, non mais justement, c'est une contre. Alors non, les autres sont en pleine santé. Et le récit policier, je viens de le faire paraître chez un éditeur qui est en pleine forme aussi, donc tout va bien. Voilà, oui. Non, il est en forme aussi, ça se voit. Il fait beaucoup de sport. Non, pas du tout en fait. Mais. Donc oui, mais jamais à compte d'auteur, en effet.
Alors nous allons quand même dévoter les maîtres de la lumière. Alors première question, qu'est-ce qu'un Vourdalak? Qu'est-ce qu'un Vourdalak? Ah.
Alors je ne suis pas l'inventeur du Vourdalak, c'est Tolstoï qui a inventé le Vourdalak, puisque si vous connaissez peut-être cette nouvelle, hein, la famille du Vourdalak. Alors je ne peux pas le dire en russe parce que je ne parle pas russe, mais le Vourdalak est une espèce de revenant. Dans le texte de Tolstoï, c'est un revenant qui, on va dire, détruit les gens qu'il revient voir. Je me suis inspirée de ce personnage parce que je cherchais une entité qui naisse de la culpabilité qu'on peut avoir, du sentiment de culpabilité qu'on peut avoir quand on perd un être cher. Oui, c'est pas très gai. Parce que c'est quelque chose, quand on perd quelqu'un, on est malheureux. Enfin, en général, quelqu'un qu'on aime, on est malheureux. C'est quelque chose de terrible, d'affreux, d'insupportable, de difficile à soutenir. Et par conséquent, ça nous ronge. Et là, l'idée, c'était un petit peu d'avoir une concrétisation de ce sentiment et du fait que cette personne revienne, évidemment, pas forcément avec des intentions très positives. Donc voilà, le Vourdalak naît de la lumière. Oui, je sais, c'est un peu bizarre parce qu'une entité négative qui naît de la lumière, ça peut paraître étrange, mais c'était justement c'était l'idée. La lumière n'est pas forcément exactement ce qu'on peut imaginer, elle a un côté sombre. Oui, je sais, c'est d'autant plus étrange, mais voilà, c'était ça l'idée. Le Vourdalak vient avec de mauvaises intentions à cause de ce qu'on a mis en lui. Voilà.
Ah oui, c'est une nouvelle de Tolstoï, pas Lyon. Hein. Oui, c'est Alexei. C'est un autre. En fait, c'était une nouvelle qui avait été écrite en français en 1840, en français par un russe, publiée en 1884 de façon posthume, traduite en russe, et enfin ressortie en France. Et cette nouvelle se trouve pratiquement dans toutes les anthologies qui traitent des vampires. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un Vourdalak ? Alors, on ne voit jamais le terme de vampire véritablement dans le roman, ni zombie. Et ça pourrait faire penser, mais ce n'est pas ça vraiment. C'est encore autre chose.
C'est une entité différente, puisque le vampire se nourrit de sang, le zombie n'a plus d'intelligence. Je ne peux pas dire que le Vourdalak soit intelligent, mais vous comprendrez pourquoi je ne peux pas dire qu'il ne le soit pas non plus. Donc, je veux dire en lisant le texte. Donc c'est une entité totalement différente et qui porte ce nom parce que, pour autant, je le redis, je ne parle pas russe, mais pour autant que je sache, suite aux recherches que j'ai faites, le mot Vourdalak pouvait tout à fait s'adapter à d'autres types d'entités, y compris d'identités non vampiriques.
Oui, alors, deuxième question, comment est-ce que l'on combat les Vourdalak ?
Eh bien, avec de la lumière et avec un miroir. Voilà. Alors après, pour la technique, je ne suis pas... j'ai pas l'habilitation entraîneuse de chasseur de Vourdalak, hélas. Mais c'est un peu expliqué dans le roman. Donc oui, il faut utiliser un miroir qui permet de concentrer les photons, de concentrer la lumière. Et cette lumière, appliquée... sur le Vourdalak, eh bien, le détruit, le réduit en poussière.
Oui, dans ce roman, bon, je ne veux pas tout spoiler, maintenant on dit plus spoiler, il faut dire divulgaché. J'aime bien le mot divulgaché. C'est l'Académie française qui préconise le terme divulgaché. Mais quand même, on peut dire certaines choses. Par exemple, il y a toute une société secrète qui combat les Vourdalak, avec toute une hiérarchie bien, bien précise. Pouvoir dire un petit mot ?
Deux mots sur la société. Oui, il y a, c'est une société pyramidale, oligarchique, avec à sa tête une femme à poigne. Et il y a trois types de... Enfin, oui, il y a plusieurs types d'activités. Il y a des traqueurs, il y a des chasseurs et il y a des effaceurs. Voilà. Sachant que tout cela est un peu perméable et qu'on ne sait pas trop comment ce que deviennent les gens qui sont promus à l'une ou l'autre de ces fonctions. Donc ça n'est pas intangible. Tous ces gens ne travaillent pas en silo, même s'ils se détestent un petit peu et qu'ils se tirent un peu dans les pattes. Mais bon, c'est inévitable dans ce genre de société où le pouvoir n'est pas forcément là où on pense qu'il est. Il peut être un peu disséminé. Voilà, c'est une société finalement assez semblable à de nombreuses sociétés, pas forcément secrètes.
Parce que tout le monde veut être calife à la place du calife, et puis il y a quelqu'un qui voudrait être la doyenne, parce que la patronne s'appelle la doyenne. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur la doyenne ? C'est un personnage très étrange et qui est né il y a très 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 longtemps.
Moi, j'aime bien les vieilles dames à poigne. Je trouve que... je sais pas, ça doit être parce que j'ai envie de devenir une vieille dame à poigne quand je serai grande. Mais je trouve que la vieillesse apporte une certaine forme de sagesse, mais aussi une forme de cynisme qui peuvent aller de pair. Et une certaine force aussi. Et j'ai voulu créer ce personnage qui est à la fois jeune et vieux, très 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 vieux, plus vieux que je ne le serai jamais. Mais parce que justement, cette vieillesse met le personnage un peu hors du temps. Et elle a quelque chose d'intemporel, on va dire. Mais oui, après, elle a toujours toutes ses passions humaines qui, elles, je pense, ne vieillissent pas. J'ai l'impression que les passions humaines ne vieillissent pas. En tout cas, pour autant que j'ai pu le constater chez les personnes que je connais, à tout âge, les passions peuvent être dévastatrices et très fortes. Voilà.
Je peux quand même spoiler un peu du Vulgaché. Oui, parce que la doyenne, elle est née en moins 3500 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Alors si elle vit toujours, c'est qu'elle elle réussit à se rajeunir par régénérescence successive. Et en plus, dans ce roman, oui, la société est diffuse dans le monde entier. Il y a le centre à Paris, et puis il y a des succursales un peu partout dans le monde. Et puis cette doyenne, elle a des pouvoirs, oh mon Dieu. Elle peut se multiplier à l'envi. Elle peut être doyenne à Paris, puis être femme d'affaires à Addis Abeba en même temps. Voilà, ça se fait partie d'un de ses pouvoirs. Puis, le personnage qui est très important, c'est Gal, la chasseresse. Parce que d'abord, il y a les traqueurs, ceux qui doivent essayer de trouver où sont les Vourdalaks. Une fois que les Vourdalaks sont trouvés, on va envoyer les chasseurs pour les tuer. Et après, il y a les effaceurs, ceux qui doivent éliminer toutes les traces des Vourdalaks. Parce que ça fait beaucoup de saleté quand on les tue, hein, oh mon Dieu. Alors, il y a un personnage important, c'est la chasseresse Gal. Vous pouvez parler, voilà.
Gal, c'est... J'ai éteint le micro, là, c'est bon. Gal, c'est une jeune femme qui a à peine une trentaine d'années et qui a perdu son fils. Et donc, effectivement, c'est son premier Vourdalak, c'est son fils. Il s'est noyé. Et voilà, donc c'est un personnage qui a décidé de détruire les Vourdalaks jusqu'au dernier parce qu'ils lui ont pris son fils d'une certaine manière. Donc elle va tout faire, y compris des choses pas forcément évidentes, ni toujours très, très morales, pour y parvenir. C'est son objectif. Et c'est surtout parce que, en fait, quand vous êtes sous l'emprise d'un Vourdalak, vous faites des choses très très immoral. Enfin, ça dépend de sa morale évidemment, mais disons que elle ne s'est pas reconnue dans les actes qu'elle a fait quand elle était sous l'emprise de ce Vourdalak, et elle ne veut pas que d'autres personnes puissent tomber sous leur influence, et c'est la raison pour laquelle elle a décidé de mettre toutes ses forces dans leur éradication totale. Mais pour les éradiquer, il faut bien sûr... Enfin, quand on veut éradiquer quelque chose, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, évidemment, on détruit tous les symptômes, mais il faut surtout détruire la cause première, la source. Et c'est ce qu'elle va s'employer à faire.
Oui, alors la source, on le saura à la fin. Aussi, dans ce roman, on se promène un peu partout dans le monde. On se trouve à Paris, à Addis Abeba, on se trouve sous le mont Elbrouz, dans une caverne gigantesque, et puis dans d'autres lieux encore. Alors ça fait, c'est vraiment cosmique. Oh si, j'ai trouvé, vraiment il y a des endroits tout à fait étonnants, un relais château qui est bourré de Vourdalaks, oh mon Dieu, dans un refuge de haute montagne. Alors là, quand on regarde tous les lieux où ça se passe, il y en a, hein, et puis souvent titanesque. Alors ce qui m'avait aussi beaucoup intéressé, c'était l'environnement culturel du roman. Je veux dire, toutes les références culturelles qu'on peut y trouver, qu'elles soient littéraires, qu'elles soient picturales et autres, historiques. Alors ça m'avait absolument fasciné, parce que ça part dans tous les sens. Et je trouvais ça absolument merveilleux. Alors je vais faire un petit test. Par exemple, qui parmi vous sait encore qui était Rosa Bonheur ? Oh, elle était très très connue au 19e. Hein. Bonheur comme bonheur, le bonheur est dans le pré. Pardon ? Oui, elle peignait quoi ? Oui, beaucoup de vaches. Ah oui, que si on va sur Internet, on aura plein de portraits de vaches. Et elle était très très connue au 19e. Mais après sa mort, elle va un peu disparaître parce que ben, les impressionnistes sont là. Donc même maintenant, dans le dictionnaire, on ne parle plus de Rosa Bonheur. Voilà. Pardon ? Ah peut-être, je parle. C'est possible. Ou autrement, qui connaît Hyacinthe Rigaud ? Hyacinthe Rigaud. Vous avez tous vu au moins une peinture de Hyacinthe Rigaud dans votre vie. Tous. Il y a Musa Perpignan. Ah, quelqu'un a connu Hyacinthe Rigaud. Alors il faisait quoi, Hyacinthe ? Il était peintre ? Oui. Voilà, c'était un peintre officiel qui a fait d'innombrables portraits de nobles à l'époque de Louis XIV. Et notamment, il a fait le grand portrait de Louis XIV en grande tenue qu'on trouve dans tous les livres d'histoire. Mais j'ai quand même moi-même revérifié pour Hyacinthe Rigaud. Hein. J'étais pas sûr. Alors, qui connaît qui était Jean de Sponde ? Non, mais c'est Jean de Sponde. Alors là, je ne connaissais pas, ça, je vous avoue. Il y a des lacunes dans mon ignorance. Il y a beaucoup. Oui, un poète. De quelle époque ? Très fort. Un poète baroque du XVIe siècle. Non, je n'avais jamais entendu parler. Autrement, alors là, encore plus difficile. Qui étaient les Parabalani ? Ah, c'est dans le livre, les Parabalani. Ah oui, oui. Ça, je le savais parce que j'ai fait des études de grec. Et puis, voilà, j'ai fait des études de grec. Et puis, c'est un terme grec qui ça signifie en gros les garçons baigneurs. Les garçons baigneurs, ça a l'air mignon comme ça. En fait, c'était au moment où, sous Théodose, l'empereur Théodose, le christianisme devient religion d'État. Et on va combattre toutes les autres religions. Et ces garçons baigneurs, au départ, étaient là uniquement pour soigner les malades et s'occuper des mourants. En fait, c'était une bande de nervis qui persécutaient et qui massacraient les chrétiens. Notamment, c'est eux qui sont responsables de la mort d'une philosophe très célèbre, Hypatie. La dernière grande philosophe grecque, c'était Alexandrie. Il y a d'ailleurs tout un film qui est sorti qui s'appelle Agora, qui parle de ça. Alors c'est curieux de trouver les Parabalani comme ça dans le texte. Alors, ça va très très vite parce qu'on apprend à un moment donné que la doyenne, à l'époque d'Alexandrie, a réussi à sauver une autre femme en s'enfuyant dans des rues d'une ville. Et là, il faut comprendre que c'est Alexandrie et ceux qui les poursuivent, ce sont les Parabalani, les persécuteurs des chrétiens.
On peut lire le texte sans
référence culturelle. Puis, qui sait encore qui était le serpent Ouroboros ? Ouroboros. Oh, c'est une figure symbolique, c'est le serpent qui se mord la queue. Parfois, c'est aussi un dragon qui se mord la queue. Et ça signifie que cycle, voilà, l'éternel recommence. Ces références culturelles, et ça...
Non mais c'est-à-dire que, effectivement, oui, moi aussi, comme j'ai fait lettres classiques, il y a des traces, hein. Et disons que je dois reconnaître que je m'intéresse beaucoup aux cultures antiques d'une manière générale, pour une raison très simple, c'est que à cette époque-là, c'était des humains comme nous qui avaient la même qualité de pensée que nous, etc. Mais il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les smartphones, c'était des sociétés esclavagistes, c'était des sociétés misogynes, c'était des sociétés totalement différentes des nôtres qui pensaient différemment. Donc c'est intéressant de voir comment ils voyaient le monde, et je trouve que ça nous permet de prendre du recul vis-à-vis d'une autre. Voilà pourquoi je m'intéresse à ces sociétés. Mais voilà, donc forcément il y a des traces. Bon, par ailleurs, effectivement, le baroque est un mouvement qui m'intéresse beaucoup. Rosa Bonheur, moi j'adore les vaches. Bon, après, j'aime beaucoup les vaches, j'ai même écrit une nouvelle sur les vaches. J'adore ça, je trouve ça très beau. Bon, chacun ses goûts. Donc forcément, je ne pouvais pas passer à côté de Rosa Bonheur. Disons qu'il y a beaucoup de choses dans ma vie, les choses qui m'intéressent se retrouvent, enfin il y a des éléments qui se retrouvent, voilà. Parce que mes comparaisons, je vais les prendre dans ce que je connais, dans ce que j'aime, dans ce qui me touche, dans ce qui me parle. Et bah oui, bah, les vaches, les Hypatie, ça me parle.
Voilà. Alors, ça parle de Rosa Bonheur, ça parle du serpent Ouroboros, et ça parle quand même beaucoup de physique quantique. Voilà. Alors ça fait un mélange tout à fait... Moi, je trouve ça absolument détonnant. Alors c'est un roman riche, compact, ambitieux, dans lequel on trouve absolument plein de choses. Voilà.
Oui, la physique quantique, c'est aussi quelque chose qui me passionne, parce que je trouve que l'expérience des deux fentes, mais franchement, mais moi, ça me met le cerveau à l'envers, ce truc. L'intrication quantique, mais bon sang, mais c'est irrationnel au possible. Comment ça peut exister, un truc pareil? On n'a pas compris, c'est là qu'on voit qu'on est des petits singes et qu'on est face à un mystère de l'univers. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Hein. Enfin, moi, je me sens comme ça. Et donc, voilà, c'est... Effectivement, ça nourrit vraiment ma réflexion, parce que je comprends pas. Je comprends pas, j'ai l'impression, oui, voilà, d'être face à quelque chose qui me dépasse complètement. Et j'émets pour moi-même hein, des hypothèses qui, évidemment, n'ont absolument aucun lien avec ce que ça doit être en vrai. Mais ça fait germer mon imaginaire parce que j'essaie de comprendre. Voilà, et j'aime bien essayer de comprendre, même si j'arrive pas à comprendre. Donc voilà, oui, effectivement, la physique quantique, c'est... Je trouve que c'est extraordinaire, c'est un terrain de jeu incroyable, enfin de jeu pour moi, parce que moi j'y connais rien. Je regarde, j'essaie de comprendre, mais c'est tout. Et ça me permet de, oui voilà, d'imaginer des histoires, d'imaginer des personnages, d'imaginer des choses auxquelles je n'aurais pas pensé de moi-même, parce que c'est irrationnel et que bah, finalement, malgré le fait que je fonctionne aussi bien sûr aux émotions, je fonctionne beaucoup à la raison. Et quand je tombe en face de quelque chose d'irrationnel, je sais pas, ça fait des étincelles dans ma tête. Et voilà, et du coup, il naît des petites choses, un peu bizarres.
Même les physiciens quantiques ne comprennent rien à la physique quantique. Ils n'arrivent pas à se représenter ce qu'ils essaient d'expliquer. Autrement, il y a un autre élément qui m'avait beaucoup surpris dans le roman, c'est que c'est souvent très saignant. C'est souvent même très, très gore. Oh là là, non.
La libraire de... J'habite Nevers. La libraire, il y a une librairie indépendante qui s'appelle la librairie du Cyprès, je fais de la pub, ils sont très bien, qui a lu mon roman et qui est une personne que je connais très bien, a fait une petite recommandation sur le livre qu'elle a mis sur l'étal et c'est marqué « Âme sensible s'abstenir ». Et j'avoue, je le dis honnêtement, hein, je n'avais pas réalisé que c'était aussi sanglant. J'ai pas réalisé moi-même, mais effectivement, quand on l'écrit, on s'en rend pas compte parce que, enfin, moi en tout cas, je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est vrai qu'il y a des scènes un petit peu, oui, voilà, oui, bon, c'est vrai. Mais pour moi, comme tout ça est de la fiction, parce qu'il y a absolument rien de vrai là-dedans, mais vraiment rien, je veux dire même pas dans le détail. Les références sont réelles, mais tout ce qui se passe, rien n'existe. Je ne m'inspire jamais du réel. Et c'est pour ça que je n'ai absolument aucun complexe à écrire des choses horribles, parce que c'est entièrement faux. C'est totalement inventé, c'est de la fiction à 100%. Donc c'est pas grave si effectivement on découpe les gens, on les atomise. C'est pas grave puisque c'est faux. Voilà. Donc et ça n'existe pas. Je ne peux pas dire les choses autrement. Alors c'est pas une, je ne me dédouane pas. Hein, je reconnais qu'effectivement il y a des scènes qui sont peut-être un petit peu, oui, sanglantes, un peu brutales.
Réaliste.
Réaliste, oui, peut-être aussi. Mais sinon, pour faire croire à de l'imaginaire, il faut être réaliste. Sinon, on n'accroche pas, on n'adhère pas. C'est le petit fait vrai. Donc voilà, c'est parce que pour moi rien n'est réel que je peux y aller à fond. Voilà.
Oui, et puis c'est pour cette raison, comme c'est à la fois très réaliste et que ça parle beaucoup de physique quantique, on n'a pas le terme de zombie, tout ça, on est plutôt en science-fiction qu'en fantastique.
Très sincèrement, de mon point de vue, je n'oserais pas dire que c'est de la science-fiction, parce que pour moi, la science-fiction, que j'apprécie énormément et que je lis, c'est beaucoup plus... j'ai une vision plus hard science de la science-fiction, personnellement, hein, mais ça n'engage que moi. Je ne prétendrai pas que ce texte soit de la science-fiction pour une raison simple, c'est que tout ce que je raconte sur les questions de physique quantique, d'intrication quantique, etc., n'ont aucun fondement. Enfin, je veux dire, je pars complètement en vrille là-dessus. Et ça ferait bondir n'importe quel physicien. D'ailleurs, je pense que si quelqu'un qui a des notions de physique quantique lit ça, ça va le faire doucement rigoler. C'est, voilà. Donc, non, de ce point de vue-là, je n'ai pas le sentiment d'écrire de la science-fiction. Je le redis, c'est complètement inventé. Donc, pour moi, on est vraiment dans le fantastique, même si, bien sûr, il y a l'effet de réel. Mais pour moi, les éléments qu'on pourrait rapprocher de la science-fiction ne relèvent que de l'ancrage dans le réel et non pas d'une réelle extrapolation, d'une véritable extrapolation, d'une anticipation technique, scientifique. Personne ne trouvera d'idée pour écrire la théorie du tout ou falsifier la théorie des cordes dans ce bouquin, c'est sûr.
Oui, ben, je trouve que c'est quand même de la science-fiction parce que là, vous parlez surtout de hard science, mais en science-fiction, il y a un tas de genres. Hein. Il y a l'uchronie, il y a la dystopie, il y a l'anticipation, il y en a plein. Et moi, je trouve que ça relève plus de la science-fiction que vraiment du fantastique.
Voilà, la SF, c'est quand même l'utilisation de la science dans un récit imaginaire. Et là, on est en plein dedans. Hein.
Moi qui ai une vision, je pense, peut-être un peu étroite de la science-fiction, disons que pour moi, c'est beaucoup plus technique que ça et je me sens pas... Bon, j'ai pas les épaules pour écrire un texte voilà, technique et c'est vrai que je vais pas écrire Mars la Rouge, je vais pas écrire, je sais pas, du Greg Egan. Oui, enfin, c'est un exemple, mais oui, voilà. Non, voilà, c'est juste un exemple, mais c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord, il y a énormément de sortes de science-fiction. Moi, je suis une grosse lectrice de science-fiction, parce que j'aime beaucoup ça. Et c'est, malheureusement, je ne me sens pas capable d'écrire ça. Voilà.
Moi, j'écris de la science-fiction, je suis nul en science. Hein. Alors, j'ai fait des études littéraires, j'ai fait du latin et du grec, et la physique quantique, pour moi, c'est du chinois. Mais ça fait rien, j'écris quand même de la science-fiction. Je suis dans les littératures de l'imaginaire. Et là, on y est...
J'ai pas vraiment de questions. Je voudrais pas que vous ayez peur avec tout ce que Pierre a dit en disant qu'il y a des références scientifiques, des références littéraires, culturelles, qu'il y a du sang, qu'il y a plein de choses, il y a de la physique quantique, enfin, tout ce qu'il vient de vous décrire, ça peut sembler un petit peu abscon, obscur, difficile. Il faut penser aussi que dans ce livre, il y a aussi une histoire, et une histoire d'humain. C'est quand même... l'héroïne, Gal, a quand même une quête, c'est clair, elle veut éradiquer quelque chose, elle veut aussi s'affranchir de certaines douleurs, mais il y a quand même une grande histoire qui est parfaitement conçue, qui est structurée, qui se passe dans le temps, dans des temps différents, dans des lieux différents, mais ça reste quand même une belle histoire à la base quand même. Il y a un début, il y a une fin, il y a un milieu, ce n'est pas que des références. Et toutes ces références viennent enrichir justement une belle histoire. Donc c'est quand même quelque chose qui, est, à mon sens, avait été important. J'ai reçu le manuscrit. J'avais noté peut-être pas aussi précisément que Pierre toutes ces références que je n'ai pas la culture qu'il peut avoir. Moi, je suis un scientifique. Moi, le grec et le latin, c'était plutôt des souvenirs pas terribles à l'école. Moi, je me suis attaché au côté histoire, au récit qui est fait de cette héroïne. Qui va effectivement des fois aller au-delà de sa morale pour arriver à ses fins, qui va nous toucher à certains moments, parce qu'il y a des passages qui sont émouvants, des souvenirs qui sont émouvants pour cette héroïne. Il y a des passages effectivement qui sont sanglants, mais d'un autre côté, aujourd'hui, allumer la télé, c'est pas pire, hein, c'est de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut raconter. Là, c'est juste simplement écrit proprement, simplement, mais avec... un vocabulaire qui est toujours choisi, qui n'est ni excentrique, ni lourd, ni pompeux. Il y a un équilibre entre le récit, les références, et puis l'histoire et les émotions qu'elle peut procurer, qui sont à mon avis un savant mélange et qui fait un beau livre.
Je dirais aussi, il y a quand même aussi une véritable histoire d'amour entre une mère et son fils. Voilà. Quand la mère se rend compte que son fils, c'est un Vourdalak et qu'il va se nourrir d'autres humains, elle va même l'aider à un moment donné. Moi, j'aurais bien sous-titré le roman Les Maîtres de la Lumière, Vourdalak, mon amour.
Je pense que quand on aime quelqu'un, on est prêt à faire beaucoup de choses. On est prêt à renoncer, à se renier, à renoncer à des choses auxquelles on croyait tenir, je pense. Enfin, je me suis pas trouvée dans ce cas-là, heureusement pour moi. Mais je pense que oui, quand on aime, on peut perdre ses repères, pas seulement moraux, mais toutes sortes de repères. Et enfin, je crois que c'est un peu, enfin, ça me paraît un peu inévitable parfois. Donc après, il est difficile de revenir, de retrouver le monde commun, les références communes, la morale commune. C'est redevenir normal. Est-ce que c'est possible quand on a vécu des choses terribles? Je ne sais pas. Donc voilà, oui, effectivement, il y a cette histoire, cette relation forte qui aurait pu être entre deux autres types de personnes. Mais c'est vrai que je trouve que souvent, il arrive très souvent qu'on ait des relations très fortes avec nos enfants, et surtout quand ils sont jeunes. Et quand on les perd jeunes, je pense que ce n'est pas mon cas, hein, mais je pense que c'est affreux. Donc voilà, on est prêt à beaucoup de choses pour récupérer cette personne et les sentiments. Et voilà, donc, oui, il y a aussi effectivement cette histoire d'amour maternel.
Une dernière chose, c'est remarquablement écrit. Et ça se dit vraiment très très bien. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup d'adjectifs. Moi, j'aime bien les adjectifs. J'avais écrit un roman qui s'appelait Marilyn Monroe et les samouraïs du Père Noël. Je m'avais dit, voilà. Alors Marilyn Monroe et les samouraïs du Père Noël, je m'avais dit c'était bien, mais il y a trop d'adjectifs. On m'avait dit ça. Hein. Alors j'ai écrit après une suite qui s'appelait Greta Garbo et les crocodiles du Père Fouettard. Et j'avais mis juste, c'est la seule fois où j'ai mis une phrase en exergue, c'est une phrase de Louis Scutener, un belge surréaliste, qui avait écrit un recueil de pensées qui s'appelait Mes inscriptions. Je lisais ça, puis je vois une pensée, c'était « Moi, j'aime bien les adjectifs ». Alors j'avais marqué en exergue « Moi, j'aime bien les adjectifs ». Voilà.
Alors, merci beaucoup. Je tiens à dire que j'ai bénéficié de la relecture plus qu'attentive des trois membres du jury. Et quand je dis plus qu'attentive, du jury du prix La Cour de l'Imaginaire, c'est-à-dire Josette Hiss, Raymond Hiss et Nadia Harley, qui n'est donc pas là, mais qui est avec nous de cœur. Ces relectures m'ont été plus que profitables. J'ai appris beaucoup de choses. Et c'est aussi pour ça.
Voilà. C'est un travail d'équipe. Voilà. Ben, si le public a d'autres questions à poser. Non, c'est bon. De tous ses membres se détacher des lambeaux de chair qui remplissaient le bassin et flottaient au milieu des sanies. Elle hoqueta plusieurs fois, puis sa bouche s'ouvrit toute grande en un spasme répugnant. Elle vomit de l'eau, des glaires avec un bout de poumon, de la lymphe, un morceau d'estomac, un autre de foie et le début de son œsophage qui força le passage entre les mâchoires. Il était trop large pour ses lèvres qui se déchirèrent. Au même instant, dans un horrible craquement, Son corps se fendit en deux. Le cœur et la trachée se détachèrent de la cage thoraxique pour se mêler à des mètres d'intestin et d'artères arrachées, ballottées par les vaguelettes. Des fragments d'os éclatés s'étaient figés dans ses chairs mortes et les entraînaient au fond du bassin, où ils rejoignirent ses yeux qui roulaient l'un à côté de l'autre avec lenteur. Toutes ses entrailles se défaisaient.
Je ne sais pas si ça va donner envie aux gens de lire. Non, il l'a bien choisi quand même. C'est pas tout le temps comme ça. Hein.
Non, c'est juste. Hein, non, le reste, il y a des passages très poétiques. Hein.
C'est pour faire passer le café gourmand.
Je voudrais rajouter un petit mot simplement pour en ce qui concerne l'ouvrage de Claire Garand. Elle a réussi quand même, et c'est pas évident dans ce genre d'ouvrage, à mêler des intrigues très différentes qui se déroulent en parallèle et qui finissent par se rejoindre. Souvent, on a l'habitude déjà des manuscrits où au bout d'un moment, l'auteur se perd et se mélange les pinceaux. Parce qu'il y a, pour moi, il y a du fantastique, il y a de la science-fiction, il y a une histoire effectivement d'amour entre une mère et son fils, mais qui ne se déroule pas comme on l'attend généralement ce genre de rang par un happy end. C'est un thriller, c'est un, on pourrait appeler un roman d'espionnage, et tout ça se mélange et se mêle très bien. Pour aboutir finalement une situation qui rebondit à la fin. Quoi. Donc du point de vue de la maîtrise de la narration, c'est vraiment impeccable. C'est vraiment un excellent travail. Quoi. C'est pour ça qu'on l'a retenu. Hein. Est-ce que vous savez tous sur les Vourdalak, l'intrication quantique et tous ces trucs-là? Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, vous saurez tout en achetant l'ouvrage, évidemment. Mais est-ce que vous avez des questions à poser à l'auteur, aux intervenants
Particulièrement dans les mandalas. J'en ai vu, mais je voudrais... Dans les Vourdalak, ce qui m'intéresse dans les Vourdalak Ce que je trouvais intéressant à la lecture de la nouvelle de Tolstoï, donc Alexis, effectivement, il fallait préciser parce que je n'ai pas précisé, c'est le fait que les gens reviennent à la fois pour le plaisir et pour la perte des gens de la famille auprès desquels ils reviennent. Donc il y a à la fois les deux facettes de la médaille, l'ombre et la lumière. C'est dans une même personne. Et soit on se laisse prendre par ces gens, par ces revenants, soit on résiste. Et donc, il est difficile de résister à quelque chose qui vous fait plaisir. Enfin, du moins, qui a l'air de vous faire plaisir au départ. Voilà, donc c'était un petit peu cette ambivalence que j'ai trouvée riche et porteuse par rapport aux sentiments qu'on éprouve, nous, qui ne sont jamais, nos sentiments ne sont jamais simples, et c'est toujours intriqué, comme l'intrication quantique. Nos sentiments sont toujours complexes, et dans le dégoût peut se cacher le plaisir, dans l'amour peut se cacher un germe de destruction. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, qui m'intéressait dans ces personnages. Est-ce que j'ai répondu à votre question ?
Oui, bonjour. Je vais peut-être vous poser une question un peu trop personnelle. Hein, vous n'êtes pas du tout obligé d'y répondre. Mais j'ai remarqué que vous aviez toujours le sourire, pour ne pas dire le fou rire même. Alors, je me demande, et puis voyant ce que, ayant un aperçu de ce que vous écrivez, j'ai encore pas acheté votre livre, mais je vais sûrement le faire, mais je me demande si vous avez eu de vrais moments de... des coups durs, de la vie, des choses comme ça que vous cachez bien et qui ressortent un petit peu dans le livre, peut-être. Mais si c'est trop indiscret, vous me dites oui ou non, sans plus.
Je vais répondre à votre question et je vais vous décevoir. J'ai une vie d'une banalité extrême, mais je suis environnée de personnes qui ont des vies dures. Donc j'ai la chance, moi je n'ai jamais souffert de choses horribles, mais j'ai rencontré et je côtoie fréquemment des gens qui ont eu des vies vraiment très dures, qui ont subi des pertes très fortes, et qui ont vraiment souffert. Et je vois la souffrance chez les autres et je me réjouis tous les jours de ne pas l'éprouver moi-même. C'est pour ça que je pense que je peux écrire ce genre de choses, parce que précisément, ça ne me concerne pas. Vous voyez ? Je sais que, je le disais tout à l'heure, j'écris les récits de vie des gens, beaucoup de gens me disent je ne peux pas écrire sur moi-même parce que c'est trop dur, c'est trop lourd, c'est trop chargé et c'est trop émouvant, mais moi je peux écrire sur les autres et je peux écrire des choses terribles, des déchirures émotionnelles, je peux les écrire parce que je ne suis pas concernée et j'espère ne pas l'être pendant encore longtemps.
Tout ceci nous rassure. Bon, je clôt la séance. Ou est-ce que vous avez encore quelque chose à demander? Profitez-en, tant que Claire est là.
Est-ce que vous avez choisi une héroïne pour une raison particulière? Enfin, le fait que ce soit une femme et pas un homme à la tête du récit ou pas?
J'aime beaucoup votre question. Alors, longtemps j'ai choisi, alors ça n'est pas du tout un hasard, longtemps j'ai choisi des héros masculins. Pour une raison simple, c'est que ça me venait comme ça, dans différents textes que j'ai écrits auparavant. Et puis, je me suis rendu compte pourquoi je ne voulais pas un héros, une héroïne? Parce que ça, c'était trop proche de moi. Bon, c'était comme ça. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, un jour, j'ai tenté quand même d'écrire une histoire avec une femme. Et je ne me suis pas sentie impliquée. Donc, je pouvais écrire une histoire avec une femme. Et je le redis, hein, c'est toujours pareil. Je ne peux pas écrire sur moi. Je ne peux pas. Donc, et je me suis dit, écrire en mettant une héroïne femme, c'est aussi une revendication, quelque part. Il y a beaucoup maintenant d'héroïnes féminines, mais je m'étais dit, là, je vais choisir une femme. Je l'ai fait volontairement. En plus, bon, cette histoire est née d'un petit jeu que j'ai fait avec, un petit défi que j'ai fait avec ma fille, qui est illustratrice, qui a fait un... Bon, et voilà, je me suis dit, il faut que ça soit une femme. Donc oui, j'ai choisi volontairement une femme, et je me suis rendu compte que les femmes venaient de plus en plus facilement sous ma plume, ce qui fait que, effectivement, hein, à la tête de la société, c'est aussi une femme. Bon, il n'y a pas que des femmes, hein, je vous rassure. mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y avait que je pouvais écrire des héroïnes femmes, et j'ai voulu écrire au moins ce personnage-là comme étant une femme. Par ailleurs, bon, ça ne se voit pas forcément énormément dans le roman, elle est métisse, c'était quelque chose d'important aussi pour moi. Voilà, donc oui, j'ai choisi cette héroïne de manière assez discrète quand même. Disons que ce n'est pas une féminité triomphante, ce n'est pas le but, mais je voulais qu'il y ait oui, un personnage féminin. Donc oui, c'est volontaire. Pardon ? Il faut le lire. Voilà. Mais la femme, elle est en petit là. Elle est cachée derrière, on la voit pas, mais voilà. Oui.
Oui, oui, non, sinon on saura tout avant la fin. Mais disons que ça nous projette dans des univers historiquement très, très éloignés. Vous le constatez en regardant l'affiche et la couverture du bouquin. Et bon, est-ce qu'on peut... Vous avez encore d'autres précisions à demander? Vous savez tout? Vous allez tout savoir? Bon, ben d'accord. Donc, la Cour de l'Imaginaire vous remercie d'avoir participé à notre promotion du livre de Claire Garand. Et pour la suite des événements, donc l'opération Cours de l'Imaginaire de 2020 est en cours. Et donc si vous, si les gens de vos connaissances taquinent le clavier, nous sommes prêts à recevoir des tapuscrits jusqu'à fin février 2020. Donc nous vous remercions d'être venus, d'avoir participé à notre séance, à notre café littéraire. Maintenant donc vous allez pouvoir prendre connaissance avec l'ouvrage de Claire Garand, mais également avec tous les autres ouvrages, ou presque tous les autres ouvrages de la Cour de l'Imaginaire depuis le début, ainsi que quelques ouvrages amenés par Pierre Stolz.